toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéré, Sophie Torlotta.
Amal est une enseignante de littérature passionnée par son métier. Attachée à transmettre l'amour des mots, mais aussi du vivre ensemble, de l'ouverture d'esprit, une noble idée de l'éducation mise à mal quand une vision radicalisée de la religion, de ce que l'on peut dire ou pas, s'en mêle. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
L'histoire d'Amal fait tragiquement écho à nombre de faits d'actualité qui ont défrayé la chronique en France ces derniers temps. On y retrouve les mêmes ingrédients explosifs, la même solitude aussi de l'enseignant dans sa classe, alors que l'école n'est plus un sanctuaire. Mais Amal est une fiction. D'ailleurs, le titre entier, c'est « Amal, un esprit libre », un film fort venu de Belgique, et nous recevons son réalisateur, Jawad Ralib. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de venir longuement.
Merci à vous.
De nous parler de votre nouveau long-métrage qui vient de sortir sur les écrans français. À l'affiche de notre cinéma également ce samedi, un coup de projecteur sur le forum Hérité du futur qui se tient à partir d'aujourd'hui à l'Institut français d'Abidjan.
Il y a beaucoup de tensions encore dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits à cause des traumatismes de la colonisation. Donc je pense que cette initiative est louable dans ce sens-là. Renouer un dialogue équilibré entre les deux continents, c'est quelque chose qui m'intéresse.
Et puis un reportage au Festival Vue d'Afrique qui s'achève demain à Montréal.
Ça a été ta journée?
J'ai une journée un peu compliquée.
C'est pas la première fois.
Ouais, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est différent. On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours. Parce qu'on la soupçonnerait d'être quoi? D'être homosexuelle. Si on fait rien, ça va gangréner.
Voilà, le début de la bande-annonce de votre nouveau long-métrage, Jawad Ralib. Amal, c'est Lubna Zabal. Elle ne peut pas faire cours sereinement dans sa classe. Alors, une de ses élèves, je crois qu'on est au collège, c'est
oui.
Ça. Monia est prise à partie par certains de ses camarades. Elle a même été agressée physiquement. Les autres lui reprochent ses tatouages et son homosexualité présumée. Car Monia, comme ses harceleurs, est de confession musulmane. Alors, des incidents comme ceux que vous montrez dans votre film sont malheureusement monnaie courante en France. C'est aussi le cas en Belgique?
Oui, complètement. Mais bon, on n'a pas été jusqu'à la décapitation.
Vous faites référence à Samuel Paty.
Exactement. Donc oui, il y a cette peur qui habite donc les professeurs, la peur d'aborder des sujets dits sensibles, et donc automatiquement ils s'autocensurent pour juste rester tranquille et être tranquille.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à en faire un film?
Alors en 2018, donc on a commencé en 2018. J'avais à ce moment-là justement un long métrage docu qui s'appelle « Autant les Arabes danser ». Et donc, c'est un docu où on suit des artistes dans le monde arabo-musulman, mais aussi en Europe, donc Maroc, Égypte, Iran, France et Belgique. Donc, j'ai suivi en fait pendant quelques temps des artistes en création, des artistes arabo-musulmans, je précise, qui se posent cette question que tout le monde se pose, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut dire, ne pas dire, etc., et qui crée en fait sous la menace islamiste radicalisée qui interdit tout, la danse, la musique. Après sa vie festivalière, sortie cinéma, etc., donc on a fait une sortie scolaire dans des salles de cinéma en Belgique, à Bruxelles surtout, où j'ai eu la chance de rencontrer sur une année énormément de jeunes, d'élèves, leurs professeurs et des directeurs, directrices d'école. Et donc à partir de là, le contact a été mis en place avec le monde scolaire et on a appris pas mal de choses par rapport justement à cette peur justement, la peur d'aborder bien sûr tous les sujets. Et donc à partir de là, il fallait faire ce film, j'ai commencé à écrire, je l'ai proposé à Lubna, ça a duré quelques secondes, elle a dit oui tout de suite en fait, c'est même pas quelques secondes, juste le temps de... Parce qu'elle aussi, elle tenait en fait à mettre au devant de la scène les professeurs et leur donner la parole.
Jawad Ralib, j'ai lu aussi que certaines réactions des élèves étaient virulentes.
Complètement.
Virulentes et que les profs restaient silencieux.
Complètement.
C'est-à-dire... ça qui a donné naissance à Amal aussi ?
Oui, complètement, parce qu'en fait, une fois que la lumière s'éteignait, on entendait quelques voix. Parce qu'on mélangeait en fait les écoles. On avait des salles où il y avait 450 jeunes. Et on entendait quelques voix quand même qui étaient là, avec des insultes homophobes, misogynes, enfin, on avait de tout. Et il y avait d'autres voix qui leur demandaient le silence. Beaucoup de voix qui demandaient le silence. Une fois que la lumière s'allumait, on ne voyait plus que la minorité virulente. Et les profs n'osaient même pas parler. C'est là, justement, où je l'ai rencontré après. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et donc, c'est là où on constate la perte de ce respect qu'on avait et qu'on doit à l'école et aux enseignants.
Mais au temps où les Arabes dansaient, et aussi d'une certaine façon, ce nouveau film pose une autre question, c'est qu'est-ce que l'islam ? Non ?
Qu'est-ce que l'islam ? L'islam, nous, on le sait, et la majorité le connaît.
Mais ces élèves-là, ces élèves qui
exactement.
Poussaient, qui criaient, qui avaient des insultes homophobes...
Ils sont endoctrinés, tout simplement. C'est des élèves, comme la plupart, qui ne lisent pas l'arabe, qui ne comprennent pas l'arabe, qui ne parlent pas l'arabe, et qui tombent entre les mains, justement, de quelques personnes, de quelques imams. Et encore une fois, je précise là-dessus, parce que j'ai des exemples. J'ai rencontré pas mal d'imams éclairés. Et d'ailleurs, deux imams en Belgique qui sont magnifiques, qui parlent super bien. D'ailleurs, il faut les inviter, ces gens. Et qui sont justement victimes du harcèlement. Et oui, bien sûr, c'est des enfants qui sont endoctrinés et automatiquement, quand on leur dit que la musique est haram, illicite. La danse est illicite, automatiquement, ils croient à ça. C'est du boulot pour les ramener, je ne dis pas le droit chemin, mais au moins qu'ils puissent
réfléchir
exactement par eux-mêmes et décider par eux-mêmes.
Jawad Ralib, on va continuer à parler longuement d'Amal, de transmission et de culture arabo-musulmane. Mais avant, on fait un détour à Montréal, où s'achèvent dimanche les 40e Vues d'Afrique. Je crois que c'est un festival que vous connaissez bien, hein, Jawad, puisque plusieurs de vos précédents films y ont été montrés.
Hein, oui, tout à fait.
Puisque c'est un festival qui fait la part belle aux cinéastes africains ou de la diaspora.
Et tout à fait.
Vous, c'est des films qui avaient été tournés au Maroc.
Oui, notamment donc Fadma, même les fourmis ont des ailes, qui parle justement de la grève de femmes, grève de la cuisine, pour qu'on puisse leur ramener de l'eau jusqu'à chez eux. Et c'est mené par Fadma, qui elle est partie vivre en ville et qui a appris beaucoup de choses, qui a vu beaucoup de choses et qui est revenue contaminer le village et sa famille.
Au Maroc. Donc, Vue d'Afrique, un reportage à Montréal de notre correspondant Alexis Gacon.
Pour ses 40 ans, le festival Vue d'Afrique déménage. Fini la petite cinémathèque du centre-ville et bonjour, le multiplex. Lynn se rend au festival depuis ses débuts.
J'ai un amour inconditionnel pour cet événement.
Azab Aziz est responsable de la programmation.
Moi, en tant qu'Africaine et personne habitant aussi à Montréal, je trouve que c'est un événement très important pour réunir la communauté, mais aussi pour faire rayonner la culture africaine.
Le festival s'en va donc dans le nord de Montréal, plus proche des communautés afro-descendantes de la ville.
Exactement, décentraliser un petit peu, donc ramener aussi le cinéma africain aux communautés, aux diasporas, et sortir un petit peu des lieux où on a l'habitude de voir ce genre de films.
Parmi les films projetés, il y a, en formule ciné-concert, La petite vendeuse de soleil, œuvre mythique de Djibril Diop Mambéty, qui date de 25 ans, sur une fillette de 13 ans, handicapée, qui mendie, puis décide de vendre des journaux, une place réservée alors aux garçons. Georges Dioji Endur a retrouvé l'actrice et tourné un documentaire qui rend hommage au film. Il était présenté ici, en première mondiale.
Une grande joie. J'étais agréablement content. Et fier aussi, hein. Donc une fierté, voilà.
Salut, moi c'est Djello Valdé, je suis une conteuse d'histoire. Cette année, je viens pour apprécier le travail des créateurs. Quand on est conteur, ça nous prend d'écouter ce que les autres ont à dire.
Gillo, elle, a adoré le film Mon Destin d'Ismaël Lakeal.
C'est un film qui traite quand même d'un sujet qui pourrait être tabou dans les temps modernes, donc la mort. On fait un voyage en Afrique et on revient rempli d'émotions et de gratitude. C'est un peu comme un cadeau mal emballé, mais en 2024, on a tous envie d'un cadeau.
Le réalisateur est à côté, il l'écoute plutôt ravi.
C'est l'histoire d'un franco-algérien qui perd son père. Et la dernière volonté de son père, c'est d'être enterré en Algérie. Moi, c'est un rêve de gosse, encore une fois. Moi, là-bas, je suis que acteur. C'est mon premier court-métrage que je réalise. Et c'est super de pouvoir partager cette expérience avec les Canadiens. Les gens de Montréal sont très souriants, très accueillants, très bienveillants. Et je me dis, ça me redonne un peu foi en l'humanité.
Des spectateurs aux réalisateurs, personne ne s'avance pour l'instant sur des futurs lauréats qui seront connus demain en fin de journée. Alexis Gacon, Montréal, RFI.
Sur les temps qui se grisent et les corps qui se gaînent, nos larmes qui scintillent saillantes, tel un glaive. Sur les braises d'incendie, lumière sur nos querelles. Ne reste plus que la violence, une ode à l'haine, une ode à l'haine. Sur l'espoir pris d'assaut et les rêves qui se meurent. Toute cette peur en déco qui ronge tout de l'intérieur. Sur les bouquets trop faux qui fanent malgré tout. Les premiers coups de chaud, la guerre disparue, réapparue. Sur les désirs voilés, les ultimes croyances. Quand Paris sur l'après devient extravagance. Les discours extrêmes, le spectacle de plus en plus fort. Quand on nous dit si près, comment rire de la mort. Sur l'impression du pire, les comptes à rebours. Sur les semblants de paix qui comptent pour du beurre. Sur les fêtes de trop, la mort sans retour. Sur tout ce qui nous sépare, j'irai cracher mon cœur. Voilà, 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 j'irai cracher mon cœur. Sur toutes ces choses-là, j'irai cracher mon cœur. Voilà, 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 j'irai cracher mon cœur. Et tout ce que j'ai en moi.
Eddie De Preto, Crash Cœur sur RFI, c'est le choix de notre réalisatrice Lorraine Nemoza.
Et j'adore ce chanteur. J'adore.
C'est parfaitement raccord avec votre film. Vous êtes bien à l'écoute de tous les cinémas du monde. Nous sommes en compagnie de Jawad Ralib, le réalisateur d'Amal, un esprit libre. Portrait d'une enseignante de français qui a bien du mal à faire cours dans sa classe. Monia, une de ses élèves, est harcelée par un petit groupe d'élèves radicalisés qui lui reproche ses tatouages, plus largement son homosexualité présumée. Vous l'avez un peu abordé, Jawad, vous êtes beaucoup documenté, vous avez rencontré beaucoup d'enseignants pour écrire le scénario.
Exactement, c'est un sujet très sensible et il faut être juste et il ne faut pas se louper. Donc c'était un travail mais très très long avec les enseignants et Loubna bien sûr, Azabal les a beaucoup rencontrés pour savoir comment un prof doit réagir par rapport à certaines situations. Je prends l'exemple d'un dessin qu'on voit dans la classe. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle affiche la personne la coupable ou elle garde ce papier et après elle discute avec la personne concernée? Et donc ça, c'est vraiment des détails qu'on a bien travaillé, qu'on a bien étudié. Et aussi, j'ai rencontré bien sûr des imams éclairés. Il y en a beaucoup, mais on ne les entend pas. Dont un d'ailleurs qui s'appelle Abdel Gawad, on peut le trouver facilement sur Internet, son histoire a été relayée sur Internet, qui lui un jour a eu le malheur d'aborder la question de l'homosexualité. Et sous la pression justement des élèves, des parents, etc., il a été licencié. Et il a porté l'affaire en justice, il a gagné, mais bon, le mal a été fait. Il y a un autre imam qui s'appelle Jarfi, dont le fils était homosexuel à Liège et qui a été massacré. Complètement. Il a été tué, massacré, assassinat. Et ce monsieur, admirable, il fait le tour des écoles aujourd'hui pour justement sensibiliser les jeunes et leur donner autre chose à voir, le vrai islam que nous, en défendant ce film dans Amal, c'est-à-dire avec notamment ce principe de din wa dunya, la religion et la vie. Alors que les islamistes, ils veulent nous imposer que la religion. Mais on peut vivre, on peut écouter de la musique, on peut danser, ce n'est pas incompatible. Et donc ça, c'est primordial, et notamment avec les voix de pas mal de musulmans éclairés dans le film qui font face à quelques radicalisés et qui crient, notamment Amal, qui crie « on ne veut pas que ses enfants deviennent des futurs Mehran ».
Les futurs Mohamed Merah, donc exactement. Le nom du terroriste français.
On en a marre de s'excuser à chaque fois d'être musulman à cause de ce, excusez-moi le terme, connard, c'est dans le film. Et donc c'est très important de comprendre que c'est un film, parce que j'ai lu aujourd'hui heureusement, un journal qui carrément écrit qu'on attaque les islamistes et que ce n'est pas un film nuancé, etc., etc. Et donc ça, c'est très, très grave. Ce n'est pas un film islamophobe, tout le contraire. La preuve, il a été projeté à l'Institut du Monde Arabe. Ça s'appelle Le Monde Arabe. Et vendredi, il ouvre un festival à Casablanca, festival du cinéma, festival international du cinéma de Casablanca. Ça prouve quand même que ce n'est pas un film islamophobe. Sinon, on ne le montrerait pas au Maroc.
Jawad Ghalib, ce qu'on voit dans votre film, donc ça se passe en Belgique, c'est assez étonnant pour nous Français, en tout cas, je ne savais pas qu'il y avait des cours de religion.
Mmh, bien sûr.
Il y a un personnage
bien sûr.
Plus que ambigu, sans dévoiler le film. Il y a des cours de religion.
Bah, complètement. On a les écoles catholiques, mais on a aussi les écoles publiques. Et dans les écoles publiques, deux options, cours de religion ou cours de morale. Et bien sûr, la plupart des enfants d'origine marocaine, etc., les enfants musulmans, ils sont automatiquement inscrits à ces cours de religion. Mais là n'est pas le problème. Tout le contraire, c'est bien qu'ils apprennent leur religion, etc. Et au moins la religion... qui prend l'ouverture.
Mais on voit toute l'instrumentalisation qui peut être faite dans ces cours.
Bien sûr, et surtout que les profs, en fait, sont désignés par un organisme musulman. Ce
n'est pas l'éducation nationale qui choisit.
Non, chez nous, c'est l'instruction publique, c'est l'éducation nationale. Non, c'est désigné par cet organisme. Ces profs, on ne sait pas comment ils sont formés, où ils sont formés, qui les paye, d'accord ? Et ça, c'est important. Mais bon, on le sait, on sait quelques-uns qui sont... financés par le Qatar, par les Wahhabites, les frères musulmans, etc. On le sait. Et automatiquement, on sait très bien leur projet. Et donc, c'est là où réside le plus gros du problème. Ce sont ces profs-là.
Ça veut dire qu'en fait, ces profs sont dans l'école, enseignent dans les murs de l'école.
Complètement.
Mais que la direction de l'école n'a aucune prise, non, entre guillemets, sur eux, c'est ça ?
Non, parce que...
Ils font ce qu'ils veulent.
Parce qu'on a un problème en Belgique, enfin un problème, normalement ça ne devait pas l'être, c'est que la liberté en fait d'expression, etc., elle est inscrite dans la Constitution. Et donc ça fait partie, c'est vraiment fou. Et donc automatiquement, il y a ce problème-là. La direction peut intervenir, sauf si le prof, si on rapporte que le prof écrit en arabe. Mais par contre, il peut écrire en français toutes les saloperies qu'il veut. Donc,
en flamand.
Oui. Et il y a, on a trois inspecteurs, si je ne me trompe pas, c'est le chiffre que j'ai. Trois inspecteurs qui ont toutes les écoles de Bruxelles. Donc, ils n'ont pas le temps de passer dans les écoles. Et la même chose, je me pose moi des questions sur l'identité de ces inspecteurs. Donc c'est vraiment très ambigu, c'est vraiment très compliqué. Les premières victimes, ce sont les jeunes.
Qui peuvent effectivement subir toute forme d'embrigadement.
Exactement. Parce qu'il faut quand même préciser quelque chose. C'est que moi, en termes d'écriture, bien sûr, je voulais vraiment une narration intense. C'est un thriller au sein de l'école, il faut le rappeler. C'est du cinéma, c'est artistique. Et donc je voulais que le spectateur s'accroche du début jusqu'à la fin. Et en même temps, j'ai écrit ces personnages. Je ne les juge pas, moi, je ne les juge pas. C'est-à-dire qu'ils ont tous leurs raisons. Et ils ont raison, chacun. Et chacun défend ses raisons. Et notamment, donc, le prof de religion, il le dit, et je suis là d'accord complètement avec lui. Il dit, ses enfants, ils ont besoin de retrouver de la dignité. Et c'est très simple. Vous avez la banlieue en France. Nous, on n'a pas de banlieue, mais on a des quartiers qui sont à 10 minutes du centre-ville, de la Grand Place. Et malheureusement, ces jeunes se sentent abandonnés. Nous, par exemple, les écoles du Nord et du Sud, le Nord, c'est tout ce qui est Anderlecht, Molenbeek, Schaerbeek, etc. Et le Sud, c'est Uccle. Et Uccle, ça doit parler notamment aux Français.
C'est les milliardaires.
Les milliardaires qui s'exilent là-bas. Et donc, il y a une énorme différence en termes de structure, d'école, d'éducation, d'infrastructure, de moyens. Donc, il y a une énorme différence. Donc, ces jeunes, comme chez vous ici, dans la banlieue, on le dit, mais après, ça devient un cliché. Mais non, c'est la réalité. Ils se sentent abandonnés. Et automatiquement, vous avez des gens qui arrivent, qui ont le verbe, qui présentent bien, qui portent un costume cravate, qui n'ont pas la longue barbe, etc. On ne peut pas se méfier d'eux, qui peuvent les détourner facilement en leur disant « Venez nous rejoindre, on s'occupera de vous, on fera. » Alors, soit vous avez ça, soit vous avez des dealers qui viennent leur dire « Vous allez vous faire du fric, donc rejoignez-nous. » Ou bien, ils s'orientent vers le foot ou vers... Mais le gros problème, et j'espère que vous allez garder ça, on est à Paris, donc il y a le PSG, financé par le Qatar, mais on ne se rend pas compte du travail de sape que fait le Qatar dans les banlieues. Il finance des petites mosquées, il finance des clubs, des associations, et tout ça sous le regard des responsables politiques qui détournent le regard, qui regardent ailleurs, parce que c'est du fric, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est.
C'est un allié stratégique
dans la région. Et ils ne comprennent pas, en fait, qu'entre-temps, on fabrique des... C'est minoritaire, encore une fois, mais c'est des petites bombes qui risquent d'exploser à tout moment. La sœur de Samuel Paty, elle l'a bien dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis la mort de son frère? Rien. D'ailleurs, Michael a assisté à une projection. Et bien sûr, elle a été très, très touchée par rapport à ça. Elle nous a remerciés par rapport à ce film.
Vous voulez dire, la sœur de Samuel Paty a vu Amal?
Oui, complètement. Complètement, elle l'a vu. Et malheureusement, ça s'est reproduit avec Dominique Bernard. Ça se reproduit encore avec les menaces. Ça s'est reproduit avec le proviseur.
Un proviseur d'un lycée parisien qui a été effectivement obligé
et la fille, elle a
prendre
menti.
Sa retraite.
Complètement. Oui, on l'a obligé.
Parce qu'une jeune fille voilée, refusant de retirer son voile, a accusé le proviseur de l'avoir frappée.
Bien sûr. Mais en parlant de voile, j'insiste là-dessus. Portez ce que vous voulez du moment que vous nous laissez libres de faire ce qu'on veut. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est qu'ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ils veulent absolument que tout le monde porte le voile, que tout le monde mange la même chose, que tout le monde pense la même chose. Ce n'est pas possible.
Et ils veulent contrôler les contenus. Alors, le personnage d'Amal, pour revenir à votre film, Jawad Ghalib, donc Lumna Azabal, elle aussi, ce professeur a baigné dans la culture arabo-musulmane. D'ailleurs, à un moment, le professeur de religion, Nabil, lui, je crois que c'est Nabil, ou un autre, un parent qui lui dit « tu viens du quartier,
c'est Nabil.
On te connaît ».
Bien sûr.
C'était important aussi de choisir comme professeur quelqu'un qui connaît bien la culture.
Bien sûr, complètement, et qui est sensible, bien sûr, à cette question. Ça la touche. Ça, c'était primordial. Et surtout, qu'on se retrouve un réalisateur et l'actrice principale qui ont baigné, grandi dans la culture musulmane. Mes parents ont fait la Mecque, des pratiquants, etc. Mais ils prennent la liberté et on le voit. Je commence mon film, autant les Arabes danser, avec mes parents qui parlent justement de la culture arabo-musulmane, de l'Égypte, des films égyptiens, etc., tout ce qu'on a perdu. Et juste après, quand il parle de liberté, j'ai à l'image ma mère qui fait sa prière. Donc, c'est pour montrer justement que ce n'est pas incompatible. Et donc, c'était important d'avoir Lumna Azabal, bien sûr, dans ce film, de par, bien sûr, c'est une grande actrice, mais en même temps, on a cette, j'aime pas trop ce terme, légitimité, c'est-à-dire que en principe, on ne doit pas nous taxer d'islamophobes. Ce qu'un journal français a fait, il a osé faire ça, sans aller vraiment en profondeur et sans regarder comme il faut le film. Et heureusement qu'il est le seul, et je peux vous le dire, il se fait défoncer sur X, etc., etc.
Alors, elle cherche des solutions à Amal, et elle va avoir une idée pour le moins originale.
5 fois par jour, je fais pieusement mes prières, docile. Je confesse l'unité de Dieu. Je fais mes ablutions lorsqu'il me faut les faire. Je ne repousse pas l'humble nécessiteux. Une fois l'an, j'observe tout un mois de jeûne. Je me tiens à distance de tous les faux dieux. Il est vrai, cependant, que j'accepte un verre quand il est en jeu.
Alors que nous dit ici Abou Nawas ? Abou Nawas nous explique qu'en bon musulman, il pratiquait scrupuleusement les recommandations de sa religion.
Ça veut dire quoi, ça ?
et que ses plaisirs terrestres ne l'empêchaient aucunement de croire en son Dieu. Les plaisirs terrestres, à savoir l'amour, un bon verre de vin. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est votre humanité qui m'intéresse, pas votre foi.
Jawad Ralim, on vient d'entendre un extrait de votre film Amal, dans lequel donc Amal propose à ses élèves de lire les poèmes
d'Abu Nawas du 8e siècle.
Voilà, un poète qui a vécu à Bagdad.
Exactement.
Au 8e siècle.
Exactement.
Donc c'est un écrivain hédoniste qui a la particularité de célébrer à la fois sa foi musulmane tout en affichant sa bisexualité, son amour du vin.
Exactement.
Comment vous l'avez découvert, vous, ce poète?
Je l'ai étudié au Maroc. Voilà, je suis né, j'ai grandi au Maroc, donc j'ai fait mes études là-bas, je l'ai étudié en arabe.
On peut l'étudier, donc on l'étudie
À l'époque, plus maintenant.
Ah ouais.
Plus maintenant, mais à l'époque, oui. Et l'arabe, c'était très très cru, beaucoup plus cru qu'en français. Et donc, ça n'a jamais posé de problème. Et ça montre quand même que le Maroc, en tout cas un certain temps... C'était vraiment une énorme liberté. D'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Bon, il y a parfois des résistances, c'est normal. Mais il y a quand même énormément de liberté au Maroc. On voit des femmes complètement voilées, etc. Ça existe. L'islam politique n'existe pas au Maroc. Enfin, il existe, mais sauf que tout de suite, il est bloqué par justement les musulmans, les vrais musulmans, on va dire. J'aime pas trop ces termes, les vrais musulmans. Mais voilà, déjà, cet exemple-là, on l'a. Et pourquoi on ne l'applique pas en Europe, c'est la question.
Et puis le roi est le commandeur des croyants.
Exactement,
donc
c'est le garant.
C'est une forme de barrière aussi.
Bah, heureusement, moi je dis heureusement, parce que ce n'est pas le cas de la Tunisie, ce n'est pas le cas de l'Égypte, ce n'est pas le cas de l'Algérie. Mais nous, heureusement, on a justement ce... Et ça, c'est génial, ça a toujours été le cas et c'est parfait, c'est génial.
Donc en le faisant lire à ses élèves, Amal tente de montrer, enfin en tout cas tente de faire prendre conscience à ses élèves que même dans l'islam des origines, hein, parce que 8e siècle, c'est quand même pas si longtemps après Mahomet, ben voilà, il y avait une tolérance, une ouverture, ce que vous disiez, la religion et la vie pouvaient être mêlées.
Exactement, et puis on a l'exemple aussi de l'Andalousie, où les religions cohabitaient sans aucun problème. On a été à l'école coranique au Maroc. Et l'école coranique nous apprenait que le prophète prenait le respect de l'autre, le respect des autres religions, la propreté. Il y a plein de choses en fait qu'on nous on a appris. C'est des codes de vie qu'on a appris, mais que les bons. Jamais on nous a dit aller décapiter quelqu'un parce qu'il est différent ou parce qu'il parle différemment, etc. Jamais de la vie. On n'a jamais appris ça.
Mais en faisant cela, Amal va essuyer un tir de barrage de parents radicalisés qui voudraient lui dire quoi et surtout quoi ne pas enseigner.
Exactement. Et ils débarquent et en même temps, parce que comme ils ont un groupe WhatsApp, ce qui existe aujourd'hui, un groupe WhatsApp entre les élèves, un groupe WhatsApp entre les parents. Et donc le père de Mounia, il reçoit aussi le message. Et donc il débarque et lui aussi débarque dans la salle des profs, la réunion. Et ils arrivent avec une liste. Ils ont été cherchés. Et ce qui est important là-dedans, c'est que moi, je voulais absolument éviter les clichés, les stéréotypes. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre un radicalisé. Je parle du père, par exemple, d'un des personnages. Et je vais prendre quelqu'un qui ne sait pas parler, qui ne sait pas se défendre. C'était hors de question, parce que j'aurais pu tomber dans le cliché. Et ça aurait été comique, ça aurait été une comédie, parce que la façon de parler, ça fait rire. Et donc, je ne voulais pas qu'on rigole de ça. Donc, je voulais quelqu'un qui parle très, très bien. Et donc, automatiquement, il peut se défendre. Et comme je disais tout à l'heure, ils ont leur raison. Et donc, à partir de là, ils débarquent. La même chose, on voit une personne qui est complètement voilée, interdite à l'école, mais elle rentre quand même. La secrétaire le dit, le rappelle. Et à travers ce personnage-là, on comprend la vie d'un autre personnage, d'un autre élève. Et on comprend tout de suite dans quel milieu elle baigne et qu'est-ce qu'elle apprend chez elle déjà.
Alors Amal, évidemment, on l'imagine, va voir ce que ferait tout enseignant, enfin même toute personne dans le même cas. C'est-à-dire, on va voir son supérieur, ou en tout cas, voilà, les autres,
sûr,
pour essayer d'avoir du soutien. Elle va voir la proviseure et voilà ce qu'elle lui répond.
Bon, ce que je te demande, tu vois, c'est de... de pas faire de vagues, d'essayer que ça se tasse, ou sinon, j'ai peur pour toi, en fait.
Mais attends, j'ai peur pour les professions. Je me plie à leur doléance, mais ça va pas,
s'il
ou quoi?
S'il te plaît.
Mais qu'est-ce que tu me demandes, là?
Mais je te demande pas, de pas enseigner comme t'as envie. Je te demande juste de mettre un petit peu d'eau dans ton vin, de pas enseigner des auteurs qui...
Qui quoi sont, tu parles de quoi?
Non,
pour enseigner des auteurs homosexuels, c'est
pas
quoi?
Ça, c'est pas ça que je te dis.
Alice, ton prochain rendez-vous est dans ton bureau.
D'accord. Et je suis pas contre toi, je suis avec toi, j'ai juste peur pour toi. Tout. C'est ça que je dis. Je te demande pas à la lune, je te demande juste de mettre un petit peu d'eau dans ton vin.
Voilà, la peur. Hein. C'est la
exactement.
Peur, Jawad Halim.
Complètement, complètement. Mais la peur, elle dit qu'elle a peur pour elle, mais non, elle a peur pour elle-même.
Bien sûr.
Et donc c'est malheureux. Parce que justement, le problème, c'est que plus on cède, plus on leur donne de l'espace, de la place pour contester, pour s'imposer. Alors que du moment qu'on tape sur la table et on dit non, ça se passe comme ça, mais pas autrement, petit à petit, ça va changer. C'est comme certains qui, par exemple, Amal, ne veulent pas le montrer, ne veulent pas montrer le film. Parce qu'ils disent, oui, ça risque de heurter la sensibilité de certains. Mais arrêtez de penser à la place des autres. Montrez-leur qu'on puisse débattre, échanger, se chamailler. On fait ce qu'on veut, mais laissez-les regarder. Laissez-les décider par eux-mêmes. Et c'est ce qui se passe juste en France, en fait. Nulle part ailleurs, je vous assure. En Belgique, on est à la 11e semaine aujourd'hui. 27 000 personnes, c'est l'équivalent de 600 000 personnes ici en France. 600 000 spectateurs dans les salles
donc
de cinéma.
C'est un très beau score, effectivement.
Jamais de problème, jamais de menaces, jamais d'insultes, jamais de manifestations devant les salles de cinéma. J'invite tous les journalistes à faire leur enquête comme il faut, si c'est des vrais journalistes. Et ils comprendront que les gens sont ouverts justement au débat, à la discussion dans les salles de cinéma. C'est des séances commerciales, les gens restent dans la salle pour débattre. Et c'est ça ce qu'on ouvre. Et on assiste aujourd'hui sur Facebook, sur Twitter, sur tous les réseaux, des débats autour du film. Et c'est ça que je voulais faire. C'est exactement ça.
Et en France, comment ça s'est passé au moment où le distributeur a commencé à discuter avec les exploitants de salles? Je crois, j'ai cru comprendre que globalement, ça s'est très bien passé.
Oui, au début, c'était un peu compliqué.
Avec des exceptions, voilà.
Oui, mais là, maintenant, on est sur 103 copies, ce qui est très bien pour nous, pour commencer en tout cas. On va voir ce que ça va donner. Mais on a quand même quelques salles qui politiquement sont contre.
Mais contre en donnant quels arguments?
Ben là, les arguments, c'est très simple. C'est un film qui attaque l'islam. C'est aussi simple que ça, je vous le dis. C'est un film qui attaque l'islam.
Donc certains...
Et il y a un journal qui a fait son enquête, qui les a contactés, etc., mais ils ont détourné le truc ailleurs. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, ils ne regardent pas le film en ouvrant un petit peu les yeux, les oreilles, etc. Ils ont vu qu'un islamiste, et c'est un islamiste en plus. Depuis quand un islamiste, en fait, est un musulman? Depuis quand? Et en plus de ça, ce n'est même pas des gens d'origine arabe, musulmane, ce que vous voulez.
C'est des convertis que vous montrez, non?
Oui, mais non, mais je parle justement de ces exploitants. Quand on parle de journalistes, il y a deux ou trois sur toute la presse. Et la presse, qu'elle soit de gauche ou de droite ou n'importe, ils sont tous unanimes. Mais il y a toujours quelques-uns, ils sont toujours dans cette culpabilité, on va dire. Ah oui, les pauvres... On va les protéger, mais ne protégez personne. Nous, on veut avoir la majorité des silencieux avec nous pour nettoyer de l'intérieur. Quand il se passe quelque chose, moi, j'ai honte. Quand quelqu'un crie « Allahu Akbar » et que j'allume les news, les infos le matin et que j'entends « agression » et le gars a crié « Allahu Akbar » avec un couteau, j'ai honte, je vous assure. Et qu'est-ce que je fais, en fait, dans ces situations-là? Parce que vous voyez ma tête, je suis pas un Suédois, je suis un Arabe. Et donc, c'est le cas de Lubna, la même chose. Et on arrête, on doit dire pas en notre nom. Et on veut que les musulmans, quand il y a ce genre de choses, oui, sortez dans la rue. Dites pas en notre nom. Nettoyez, chassez ces gens de vos vies, et surtout pour vos enfants. C'est les enfants qui sont en danger. Et ces journalistes, encore une fois, et je passe le message, c'est des enfoirés pour moi. Parce que tout simplement, ils sont en train de faire ce jeu-là.
Ceux qui taxent votre film d'islamophobe.
Ils sont en train de jouer le jeu des extrêmes, en fait. Et ils donnent, en fait, à l'extrême droite que nous, moi, je combats, ils leur donnent la matière. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, sur Twitter. Les gens récupèrent justement l'information, ils sont en train de les attaquer. Et je le dis, je m'en fous, j'ai pas peur, je le dis, c'est des enfoirés ces gens, parce qu'ils ne rendent service à personne. Nous, on a eu le courage de faire ce film. Tout le monde fait des films sur l'école, machin, etc., en passant à côté. Mais vraiment,
oui, il y a eu beaucoup de films sur l'école depuis le début d'année.
Mais allez en profondeur, allez chercher le vrai problème et créer le débat, faites bouger les lignes, ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Et j'en ai marre que des chaînes de télé de l'extrême droite, on va le dire, qui mettent tout le monde dans le même panier. Ils parlent que des musulmans. Ils disent pas les islamistes, ils disent les musulmans. On est tous les mêmes. On est des terroristes, on est des voleurs, des violeurs, etc. etc. Et on a marre. C'est quelques journalistes, encore une fois, heureusement. Et merci aux autres. Et merci aux Parisiens qui a fait une enquête, qui a contacté des profs pour avoir leur avis sur le film. Et c'est publié, ça a été publié aujourd'hui. C'est excellent. Mais faites un travail de journaliste, faites une enquête avant de commencer à sortir des conneries dans vos papiers. C'est débile, c'est débile. Et en gros, ils nous rendent service parce que les gens veulent aller voir le film maintenant.
C'est ce que j'ai vu, oui.
Et justement, en parlant d'enquête, Jawad, le personnage d'Amal bouge beaucoup dans le film. C'est-à-dire qu'au départ... Elle pense que c'est une petite histoire.
Oui.
N'est-ce pas ?
Complètement.
Elle pense que, justement, en enseignant, avec quelques mots, quelques phrases, un auteur, quelques heures de cours, elle va arriver à leur faire comprendre.
Tout à fait.
Ce qui est intéressant, c'est la trajectoire du personnage. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ?
Oui, bien sûr. Bon, je vais retrouver mon calme, donc je me pose. oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est de montrer, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs dans « Autant les Arabes danser », qui d'ailleurs n'est pas passé en France, il est passé partout dans le monde. Heureusement que Amazon existe et Apple TV existe. On a fait une sortie Amazon et Apple TV, parce que les Français voulaient couper une scène pour justement protéger les pauvres musulmans. Donc oui, c'est-à-dire que l'idée, en fait, c'est justement montrer à ces jeunes que la culture arabo-musulmane est très, très riche, qu'on a des poètes, on a des écrivains, etc. On a des cinéastes comme Youssef Chahine, etc. Et donc l'idée, c'était juste de leur montrer ça et de leur dire, voilà, il n'y a pas d'incompatibilité entre la vie et la religion. Et je vais vous enseigner un poète avec des beaux poèmes, du texte. Et donc ça... Ça a déchaîné, justement.
C'est-à-dire qu'elle croit qu'elle peut combattre avec ses propres armes, alors qu'en fait, le mal est bien plus profond.
Il est bien plus profond. Et encore une fois, il y a une majorité silencieuse. Si vous regardez le film, je filme aussi les silencieux, les figurants. Je les filme de la même façon que l'actrice principale. Je ne les néglige pas parce que c'est important pour moi. Et rien qu'avec le regard et le silence, on voit qu'il y a une minorité dans une classe qui prend la parole.
Et ce film, votre film, Jawad Ralib Amal, il a fait le tour des festivals dans le monde. Est-ce que vous avez constaté, hors d'Europe, les mêmes types de réactions ? Est-ce qu'il parle de la même façon, par exemple, aux États-Unis ?
Complètement. C'est-à-dire que moi, je voulais faire un film universel. Et je donne l'exemple, les États-Unis, on était à Palm Springs, où on a fini The Best of Fest. C'est le public, le prix du public, c'est le public qui décide. D'ailleurs, on n'a eu que des prix jusqu'à aujourd'hui. On a, je crois, une dizaine de prix du public. L'autre samedi, on a eu deux prix le même soir dans deux festivals différents. Comme quoi, c'est le public qui décide finalement. Et par exemple, aux États-Unis, à Palm Springs, la discussion, moi, j'étais curieux de voir comment ils vont recevoir le film. C'était très simple. Votre film, monsieur, on le prend, c'est vraiment la vie générale, on le prend, la classe, on la met ici, mais avec des têtes blondes, et on aura le même résultat. Ils ont leur trumpiste, ils ont l'extrême droite, ils ont leur religieux, c'est exactement la même chose. Il y a aussi des sujets que les profs ne peuvent pas enseigner, il y a des menaces, il y a des insultes, du harcèlement, etc. etc. Ils ont la même problématique, sauf que, encore une fois, moi, j'aurais pu faire un film sur les cathos, le judaïsme ou n'importe, radicalisé aussi, il y en a tellement, mais j'ai fait un film sur une culture que je maîtrise et surtout on ne peut pas se louper quand on traite ce genre de sujet.
Merci beaucoup Jawad Ralib. Je rappelle le titre de votre film Amal, Un esprit libre, qui vient de sortir en salle en France.
Merci à vous.
On passe au journal du cinéma d'Elisabeth Le Quéré et au forum Hérité du futur qui se tient à Abidjan. Juste après cette nouveauté, c'est Multicolore, Emma Peters, un titre de la playlist RFI.
Seul chez toi, tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît.
Tout le monde se connaît.
Faut pas foutre la honte à ta famille modèle. Oh là là, la vie c'est des ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça. Toi, ça ne t'atteint pas. Tout est normal, t'es amoureux, tu ne choisis pas. Et fais une pause, t'as quelque chose de plus que ces gens-là. Oh, t'as le droit de prendre qui tu veux dans tes bras. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça.
Le moment de notre journal du cinéma avec vous, Elisabeth. Festival de Cannes, épisode 2.
Oui, car l'officiel déroulait son programme la semaine dernière. Sophie, on en a parlé dans cette émission. Et c'est au tour cette semaine des sections parallèles. La semaine de la critique fidèle au premier et deuxième long métrage annonce 11 films venus de Taïwan, d'Argentine, de Belgique, de France ou encore d'Égypte.
L'Égypte qui sera aussi présente à la quinzaine des cinéastes. Le film s'intitule East of Noon, à l'est de midi, et il est signé Hala El Koussi.
Oui, Julien Rège, le directeur artistique de la section, a salué le courage de cette réalisatrice. Car, je le cite, la censure égyptienne n'a jamais été aussi féroce à l'encontre des auteurs. Sinon, Sophie, beaucoup de découvertes à prévoir et quelques figures connues à la quinzaine, notamment celle de la française Patricia Mazui, avec son duo d'actrices de choc Isabelle Huppert et Afsia Herzi dans La prisonnière de Bordeaux.
Et puis, une annonce pour le moins inhabituelle de Quentin Dupieux, dont le nouveau film, Le Deuxième Acte, ouvrira ce 77e Festival de Cannes.
Le cinéaste, auteur de 13 longs métrages, dont 6 réalisés, Sophie, ces 4 dernières années. Oui, c'est staccanoïste, je sais. Il estime qu'il est temps pour lui de fermer son clapet. Bien sûr, je le cite. Entendez, Sophie, de décliner toute promotion, toute interview à l'occasion de l'avant-première de son film. Et il en va ainsi de ses acteurs. Vous ne les entendrez donc pas, ni sur RFI, ni ailleurs. Selon Quentin Dupieux, son film contient déjà de façon extrêmement limpide sa propre analyse. En revanche, écrit-il dans un texte publié ce mercredi, « Nous sommes réellement impatients de lire vos critiques, commentaires ou insultes. »
Donc à suivre.
À bon entendeur, salut.
On termine cette émission à Abidjan et plus précisément à l'Institut français qui accueille cette année le forum de discussion Afrique-Europe, hérité du futur. Un forum où pendant 3 jours, les acteurs du monde culturel vont pouvoir échanger. La productrice Nameïta Touré s'occupe de la partie cinéma et audiovisuel. J'ai pu la voir en ligne cette semaine et je lui ai demandé quelles étaient ses attentes.
Le forum est intéressant pour 2 choses. Il y a beaucoup de tensions, j'ai envie de dire, encore dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup de non-dits à cause des traumatismes de la colonisation. Il y a encore beaucoup de ressentiments. Je pense qu'il y a aussi ce besoin d'essayer de renouer les partenariats autrement, parce que on a beau dire, on est pour le meilleur et pour le pire condamné à vivre ensemble. Donc je pense que cette initiative est louable dans ce sens-là. Moi, je travaille dans le domaine de la culture, donc aujourd'hui, la France en particulier, l'Europe en général, reste un de nos partenaires privilégiés, que ce soit par rapport au marché, que ce soit par rapport à la formation, que ce soit par rapport au financement, que ce soit par rapport à la coproduction. Donc oui, je pense que de renouer un dialogue équilibré entre les deux continents, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et la deuxième chose pour laquelle ce forum est très intéressant, c'est que ce forum, il y a une obligation de résultat, j'ai envie de dire. On a 2 jours dans le forum où on aura des ateliers de travail où on va devoir concevoir des projets concrets qui verront le jour et qui vont essayer de mettre le doigt sur un problème et de proposer une amorce de solution.
Et par exemple, dans ces cas concrets, il y a par exemple la production d'un film ou d'une série ou d'un objet audiovisuel ?
Il faut savoir que le forum Hérité du futur qui va se passer à Abidjan, il va se décliner autour de 5 ICC. Donc il y a l'audiovisuel, oui, il y a aussi la musique, il y a la littérature, il y a la mode et il y a l'ingénierie culturelle. Pour l'audiovisuel, on a 2 ateliers. Le premier, c'est d'essayer de refaire vivre notre patrimoine cinématographique et audiovisuel. Il y a beaucoup de discussions autour de la restitution d'œuvres d'art de musées européens qui vont retourner vers l'Afrique. Mais d'autres éléments du patrimoine, c'est aussi les archives cinématographiques et audiovisuelles. Et on aimerait déjà récupérer certaines de ces archives-là, mais surtout les faire vivre auprès des générations plus jeunes et de les projeter en séance dans des écoles, dans des lycées, dans des collèges. Parce que c'est quelque chose de le lire dans les livres d'histoire ou d'avoir des leçons qui sont données. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment accès à nos archives. Donc, ça fait que ces jeunes-là, ça reste des choses très abstraites. Un événement marquant, par exemple, des luttes précoloniales, c'est la marche des femmes de Grand Bassam qui ont marché pour libérer des prisonniers politiques. Mais c'est pas, on n'a pas d'image, on ne sait pas à quoi ces femmes-là ressemblaient, à quoi une marche, à cette époque-là, ça pouvait ressembler. On aimerait remédier à ça, donc de mettre en place un projet pilote. Et c'est vraiment cinéma et audiovisuel, donc des courts-métrages de l'époque, des longs-métrages qui datent des années 60-70, pour voir un peu les pensées des gens à ce moment-là, la manière dont le cinéma se faisait, les préoccupations des artistes à ce moment-là. Et le deuxième atelier, c'est décolonisons les narratifs. Donc, c'est vraiment d'équiper les scénaristes, donc les créatifs africains, pour qu'ils puissent écrire leur histoire. Donc, c'est une formation, on veut mettre en place une formation longue pour permettre à des jeunes scénaristes, à des jeunes auteurs-réalisateurs d'écrire des longs-métrages qui parlent de leur patrimoine, qui ont vocation à être exploités en salle et qui vont permettre de partager ce patrimoine-là avec le plus grand nombre.
Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré
et Sophie Torlotin, à la réalisation Lorraine Nemoza.
Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.
Vous avez raté la séance ? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.